Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
La première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène en Égypte avec les suites de ce concert au début du mois au cours duquel des jeunes gens ont simplement dansé sous un drapeau arc-en-ciel, celui de la fierté LGBT. Et il le paye encore. Brexit saison 2, comme tous les lundis avec Antoine Gignot. Vous verrez qu'on ne plaisante pas avec les idées anti-Brexit quand on est prof à la fac. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger. La Catalogne, une fois n'est pas coutume. Et ça nous fera peut-être du bien de comprendre où on en est ce soir. On est aussi aux États-Unis. Il tweete sa colère, Donald Trump, pendant que trois de ses proches sont dans le collimateur de la justice. Est-ce qu'il est, lui, vraiment en danger? On en parle tout de suite. Le monde est vaste. Soyons gourmands.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Paul Manafort, 68, of Alexandria, Virginia, and Richard Gates, 45, of Richmond, Virginia, have been indicted by a federal grand jury. The indictment, it goes on to say, contains 12 counts. Conspiracy against the United States, conspiracy to launder money.
Allez, vous l'entendez, ça c'est CNN, allez, fin de matinée chez nous en France, donc tout début de la journée aux États-Unis, avec les premières inculpations, comme on dit, dans l'affaire russe, collusion ou pas, des proches de Trump dont, avec la Russie pendant la campagne électorale. Ça commence à chauffer pour Trump ou pas d'ailleurs, et c'est bien ce qu'on va voir ensemble. Bonsoir Marie-Cécile Nave.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse associée à l'IRIS, spécialiste des États-Unis. Vous êtes aussi fondatrice du site chronique.fr. Alors on va essayer de se résumer pour que les gens comprennent, parce que ça devient un peu compliqué cette histoire. Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump, est le premier à faire les frais de cette fameuse enquête russe emmenée par le procureur spécial Robert Mueller. Inculpé aussi son acolyte de toujours qui s'appelle Rick Gates. Et puis, et on y viendra, George Papadopoulos qui a été lui un temps chargé de questions de politique étrangère. D'abord, quand on voit ces trois-là, ces trois premiers à tomber pour l'instant, ou en tout cas à être nommément cités dans cette affaire russe, est-ce qu'on est dans des gros poissons dans les filets du procureur ou pas?
On s'attendait pas à Papadopoulos, non. Mais c'est le gros poisson du jour, très clairement. Même si, évidemment, Manafort, il y a des chefs d'inculpation très lourds, mais qui ne disent pas explicitement, qui ne parlent pas explicitement du Russiagate. Mais il est évident que le procureur...
On parle d'évasion fiscale surtout, en fait.
Évasion fiscale, blanchiment d'argent complot contre les États-Unis parce que, voilà, dans le cadre de ces affaires qui remontent avant la campagne de Trump. Mais le procureur Mueller cherche à faire le lien entre ce lobbyiste pro-russe très très connu en tant que tel et sans doute par Trump pendant la campagne. Il ne pouvait pas ignorer ça, Trump. Et donc il cherche à faire le lien entre ce Manafort-là et le Manafort directeur de campagne, sachant que on peut penser que c'est difficile d'avoir un dédoublement de personnalité. Ce qu'il cherche à établir, c'est est-ce que le Parti républicain, l'équipe de campagne de Trump et Trump lui-même étaient au courant du fait que probablement la Russie a piraté la campagne des démocrates.
Avéré, ouais.
Ça, c'est très probable. Et deuxièmement, il cherche à établir si Trump a fait ou est en train de faire obstruction à l'enquête du FBI.
La question étant, est-ce que, en gros, Trump est arrivé à la Maison-Blanche grâce aux Russes, oui
et
ou
le
non
savait-il.
Et le savait-il? Alors, on va y venir l'un après l'autre. Ce fameux Manafort, quand même, qu'on a beaucoup vu à une période puisqu'il était directeur de campagne, on va rappeler quand même qu'il a démissionné assez tôt, août 2016, donc on est avant l'élection, en raison, justement, de liens étroits qu'il entretenait avec les oligarques ukrainiens qui étaient des pro-russes, déjà c'était dans l'air avec ce monsieur.
Est-ce que c'est en raison de ces liens-là ou est-ce que c'est en raison du fait que ça commençait à être trop visible? Première chose. Et deuxième chose, d'après la presse américaine qu'on lit là, depuis plusieurs heures, il est probable qu'il ait continué à conseiller Trump après. Manafort, il arrive à un moment très important dans la campagne de Trump qui est d'une part de convaincre les délégués républicains de voter pour Trump dans certains états clés parce qu'il y avait une guerre assez féroce avec Cruz notamment, Ted Cruz. Et il arrive au moment aussi où il faut diriger les flèches contre Clinton. C'est vraiment un moment crucial dans la campagne. Il faut tout faire pour viser Clinton et pour en faire, non pas l'ennemi, en tout cas l'adversaire numéro une. Donc ça aussi c'est un élément de suspicion très fort qui est sans doute dans la tête de Mueller. Et oui, c'est quelqu'un qui est... qui a, dont la nomination, d'une part, enfin, dans un premier temps, dans l'équipe de campagne, de manière comme un personnage lambda, et puis ensuite comme directeur de campagne, ça a beaucoup étonné un certain nombre de protagonistes républicains à l'époque qui vraiment se disaient, mais quand même, ce lobbyiste russe qui était déjà très sulfureux. Et il y avait déjà
très
une enquête du FBI.
Très fort en gueule, le Manafort.
Oui, forcément, dans ce type de personnage, ça ne peut pas être des gens timides ou discrets, bien sûr. Mais il avait déjà une enquête du FBI, il était déjà sur écoute.
Il y avait une perquisition déjà, ou elle viendra après, parce qu'il y a eu ça aussi.
Ça, je ne saurais pas vous dire, je ne me souviens pas de ça, mais il était déjà dans le collimateur du FBI, il y avait déjà une enquête en cours, et Trump l'ignorait-il? Bon, peut-être, mais en tout cas, il ne pouvait pas ignorer les liens qu'il avait avec l'oligarchie russe, ou qu'il avait eu, et puis tout son passé de lobbyiste, son passé ou peut-être son présent d'ailleurs.
Sauf ce qui fait dire à Trump pour l'instant, il n'y a pas de collusion, c'est ce qu'il a tweeté en très grande majuscule, ça a été son deuxième tweet, il a un peu tardé à le faire, preuve qu'il a quand même dû d'abord, j'imagine, aller chercher ses conseillers juridiques pour être sûr.
C'est probable.
Mais pour l'instant, la collusion, y compris avec un personnage aussi fort et aussi sulfureux que Manafort, pour le coup, la Trump a raison, le lien direct entre la campagne et les ingérences russes, par le biais de Manafort, il n'est pas fait pour l'instant.
Oui, mais Trump laisse entendre qu'on est à la fin de l'enquête de Mueller, alors que c'est probablement que le début. Et c'est ce que dit CNN, c'est ce que dit le New York Times, tous les médias que Trump critique chaque jour et qui vont sans doute mettre beaucoup de zèle à suivre cette enquête. On remarque aussi que Trump ne tweete pas sur l'inculpation de Papadopoulos.
Alors, j'allais y venir, à ce Papadopoulos, parce qu'effectivement, c'est celui qui est le moins familier de nous, du public français, si on se souvient de la campagne de Donald Trump, mais c'est celui qui était probablement le plus important, puisqu'il avait d'abord un rôle extrêmement important, et puis surtout, il plaide coupable d'avoir menti au FBI sur les liens entre les personnes de la campagne et les Russes, fermez les guillemets. Là, pour le coup, c'est très grave.
Oui, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. On le voyait pas venir, mais c'est ça qu'il faut suivre. Il est inculpé visiblement pour entrave à l'enquête du FBI, et il a reconnu avoir menti dans, comme vous l'avez dit, le fait que l'équipe de campagne de Trump peut-être serait en lien avec les Russes pour embêter Hillary Clinton, pour pirater sa campagne. Donc c'est une pièce clé, et visiblement il est en train de se mettre à table, entre guillemets. Donc c'est ça qui est inquiétant pour l'entourage de Trump.
Alors justement, on va y venir. Est-ce que l'une des raisons pour lesquelles ces hommes-là ont été visés, est-ce qu'il y a aussi une manière de dire, vous savez quoi, il y a moyen de plaider? Mais si vous plaidez, donc si vous nous aidez, il faudra nous donner d'autres billes et peut-être plus grosses. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer aussi dans la tête du procureur et qui ira jusqu'à Trump?
C'est ce que disent un certain nombre de sites d'information américains, comme Vox par exemple, qui suit ça de près. Effectivement, il est très possible que le procureur Mueller essaye de faire un deal avec Manafort, parce qu'il est quand même, il a quand même des chefs d'inculpation extrêmement graves, et il risque des années de prison. Écoutez, peut-être on peut se mettre d'accord sur une certaine indulgence par rapport à vos problèmes financiers si vous nous dites un petit peu plus de choses sur ce qui s'est éventuellement passé pendant la campagne de Trump. Trump était-il au courant des liens avec la Russie dans le fait de saboter la campagne de Clinton?
Parce qu'il y a aussi d'autres gros poissons dont on a beaucoup parlé quand l'affaire a explosé. C'est le cas de Michael Flynn, qui a été l'éphémère conseiller à la sécurité nationale, dont on pensait qu'on le trouverait dans les papiers ici.
Mais peut-être demain.
Voilà, peut-être demain, dont on sait là effectivement qu'il y a eu de vrais dialogues entre Michael Flynn et les Russes. Il y a d'abord ce personnage-là qu'on attend.
Oui, il est possible que dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, Flynn soit également convoqué, et peut-être Kushner aussi.
Alors voilà, la bombe thermonucléaire, effectivement, oui, c'est ce que j'allais dire. La bombe thermonucléaire, c'est lui, c'est le beau-fils. On n'y est pas encore.
On n'y est pas encore, mais on voit que chaque heure ou chaque demi-journée apporte son lot de nouvelles informations. Kushner, il a aussi, donc le gendre de Donald Trump, il a aussi son propre business à faire tourner. On sait qu'il a des affaires avec certains pays du Moyen-Orient, et sans doute aussi en Europe de l'Est et en Russie. Donc il y a peut-être aussi un intérêt personnel de Kushner qu'il faut démêler dans cette campagne, et peut-être aussi dans la présidence aujourd'hui, c'est-à-dire le soupçon d'entrave à l'enquête du FBI. Peut-être que ça concerne aussi Kushner. Bon, là, on fait des conjectures, mais on essaie d'interpréter heure par heure les événements.
Est-ce qu'en creux, ce que le procureur Mueller est en train de dire à Donald Trump, c'est « je te tiens ». J'arrive doucement vers toi.
Ça commence à chauffer, pour parler un peu familièrement. Mais il faut quand même être prudent, parce que s'il n'a pas d'aveu, s'il n'obtient pas d'aveu et s'il n'a pas de preuves tangibles, Mueller, il ne se passera rien pour Trump. C'est vrai que ça commence à devenir un petit peu délicat.
Est-ce qu'il a des raisons de s'inquiéter quand même, Donald Trump? Est-ce qu'on s'inquiète en haut lieu à la Maison-Blanche, là, au moment où on se parle?
Oui, c'est probable, oui.
On s'inquiète de quoi? On s'inquiète de Kushner, entendu prochainement? On s'inquiète de se rapprocher dans le cercle très très fermé de Trump? On s'inquiète de quoi?
Que va dire Manafort? Comment va-t-il se défendre? Et même s'il savait depuis quelques semaines qu'il y a eu des perquisitions chez lui cet été, et puis il savait depuis quelques semaines qu'il était potentiellement être inculpé, que c'est Mueller? Que c'est-il? Est-ce qu'il va sortir ses cartes les unes après les autres? Et ça, pour le coup, aux États-Unis, l'indépendance de la justice, c'est quelque chose d'important. Et du côté des républicains, des élus républicains, on est extrêmement prudent par rapport à ça. Il n'y a pas de défense massive de Donald Trump.
Alors j'allais y venir, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que Mueller travaille dans le plus grand secret. Contrairement à ce qui peut se passer habituellement, ça fait 6 mois qu'il travaille, ce monsieur. Il n'y a pas eu de fuite, il n'y a pas eu de vraies fausses informations qui ont circulé dans tous les sens. Il a gardé tout ça pour lui, ce qui finalement assez rare dans une affaire comme ça, non ou pas?
Alors, des affaires comme ça, il n'y en a quand même pas tous les jours.
Pas tous les jours, on est d'accord.
Ça nous fait remonter au Watergate. En fait, il y a beaucoup de points communs avec le Watergate. Papadopoulos, on sait qu'il y a eu son mensonge, ça remonte à un mois, si j'ai bien compris. Donc, effectivement, non, on n'a rien su par la presse américaine, par tous les relais d'informations qu'on peut consulter tous les jours. Donc oui, il a agi dans le plus grand secret, et peut-être qu'effectivement il a encore des choses à révéler, ou peut-être pas. Enfin, on le saura. On suit heure par heure les événements. C'est tout à fait passionnant.
Qu'on en saura très vite beaucoup plus. Lorsque l'affaire, on s'en souvient bien, lorsque l'affaire russe a éclaté, c'était autour du FBI, et la première réponse de Trump, ça a été de virer, j'emploie ce terme à dessein, parce que c'était tout à fait celui employé par Trump.
Fired.
Voilà, de virer le patron du FBI, James Comey. Est-ce qu'on peut imaginer un Trump renvoyant aussi à ses études le procureur Mueller? Est-ce que c'est envisageable ou pas du tout?
Il ne peut pas le faire lui-même, il faut qu'il passe par le ministre de la Justice.
Oui, mais qui lui-même n'a pas voulu être partie prenante dans l'affaire russe, donc il faut demander à son numéro 2, ça
son
devient
numéro
un peu nébuleux.
Il a envisagé de le faire cet été. Trump, il a envisagé de demander le limogeage de Mueller. Il ne l'a pas fait. Il peut encore le faire. Mais c'est vrai que ça serait quand même...
Ça ferait très mauvais genre.
Ça serait quand même, je pense, risqué, parce qu'on pourrait l'interpréter comme un aveu de culpabilité ou de fragilité. Il est possible qu'il le fasse. On va suivre ça. Vous savez, vous voyez ça comme moi. Trump est quelqu'un d'assez imprévisible.
comme vous dites. C'est gentiment dit.
C'est difficile de savoir ce qu'il prévoir ce qu'il va faire ou pas, mais c'est une possibilité, oui.
C'est compliqué en ce moment pour Donald Trump, compliqué aussi à l'intérieur de sa propre majorité républicaine. Vous l'avez dit, pour l'instant, on les entend pas tellement, les républicains, ça finira par venir. Est-ce que ça peut quand même rendre encore plus compliquées les relations du président, y compris avec son congrès majoritaire, ou pas? Parce qu'il peut y avoir une incidence.
Oui, c'est très compliqué pour lui, et ça peut encore se devenir plus compliqué, parce que ils sont dans une posture délicate. Ils sont à quelques semaines de voter la réforme fiscale et le budget fédéral. Et puis on est à un an des élections de mi-mandat, et donc ils sont dépendants de Donald Trump par rapport à leur siège et à la popularité qu'il y a auprès de leurs électeurs potentiels. Donc ils sont un peu coincés. C'est pas comme si on était juste après les élections de mi-mandat ou juste après l'élection présidentielle. Mais en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas ils ne sont pas unis derrière lui, ils ne s'expriment pas de manière unie derrière lui pour absolument le défendre contre l'enquête du FBI.
Et attendre peut-être, ceci dit, de savoir jusqu'où ça va aller, non?
Sans doute. Et surtout que là, on est dans une ingérence étrangère, dans une campagne, dans une campagne américaine. Donc il y a un soupçon très fort d'espionnage.
Mais qui le soutient, lui, Donald Trump? Si pour l'instant, ses amis républicains marchent sur des œufs et préfèrent se dire on verra comment ça évolue, qui le soutient? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment à Washington qui dit
il y a Fox News.
Confiance, à part Fox News?
Chris Christie, il a quelques fidèles
Chris
comme
Christie,
ça.
Chris Christie, donc gouverneur du New Jersey.
Voilà, quelques fidèles comme ça qui le soutiennent, mais on entend quand même assez peu de voix. Ils le font pas de manière très... très expressive, c'est quand même discret, ça reste discret, et puis ils attendent de voir la suite, parce que imaginons que Trump ait menti, que ce soit disons que ce soit avéré, que ce soit prouvé, et qu'il y ait eu espionnage russe avéré avec la complicité active peut-être de l'équipe de Trump pendant la campagne, si vous êtes solidaire de ça a priori, ou si vous laissez croire que non, c'est pas forcément très grave, ça peut vous coûter cher en termes électoral, en termes de popularité.
On va spéculer évidemment, mais est-ce qu'un procureur spécial comme Mueller a le droit d'entendre le président des États-Unis s'il a besoin de certains éclaircissements ou pas?
Ah, je ne saurais pas vous dire. Là, vous me posez une colle juridique. Je préfère pas vous répondre parce que je ne sais pas.
Je suis désolée. Une dernière question. On a bien vu que Trump essayait d'allumer des contre-feux avec Hillary Clinton et que pour l'instant, ces contre-feux n'ont pas réellement pris. En fait, enfin, si ce n'est auprès de sa garde extrêmement rapprochée, est-ce qu'il y a d'autres contre-feux à allumer? Est-ce que potentiellement, il peut essayer de détourner la conversation? Parce qu'en général, c'est la stratégie la plus efficace.
Il va continuer sans doute à le faire. Effectivement, il a beaucoup tweeté ce week-end en disant pourquoi on ne s'intéresse pas aux démocrates. Celle qui a triché, qu'il faut regarder. Mais en fait, Mueller, il s'en fiche d'Hillary Clinton. C'est pas elle qui est présidente des États-Unis. Donc, ou alors, il va peut-être encore trouver d'autres types de diversions avec des affaires intérieures. Il va peut-être revenir sur les footballeurs nord-américains. Il va peut-être revenir sur d'autres choses. Oui, sans doute qu'il va essayer de faire diversion encore et toujours.
Ben, en tout cas, il est à c'est un an aussi de présidence. Et malgré tout, comme on va beaucoup revenir sur ces choses-là, ça risque de compter également. On compte sur vous pour revenir nous en parler. On en reparle tout de suite d'ailleurs dans le 19h tout à l'heure. Ce sera avec Sébastien Paour et tous les derniers développements. Parce que c'est vrai que ça tombe très vite aux États-Unis dans cette affaire. Marie-Cécile Nave en direct avec nous dans Un jour dans le monde. Merci mille fois.
Merci à vous.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde en Égypte avec la répression contre les gays. Nous sommes aussi à Londres. Brexit saison 2 avec vous, Antoine Gignot. On va parler de fac ensemble.
Absolument, et de chasse aux sorcières. C'est bientôt Halloween.
Eh ben, écoutez, c'est aussi la chasse aux sorcières qui est un terme très trumpiste en ce moment. À tout à l'heure, Antoine. L'édito d'Anthony Bélanger à 18h55. Anthony, la Catalogne, le jour d'après, en quelque sorte.
Oui, le jour d'après, mais surtout le suspense. C'est presque l'autre suspense de la journée. L'autre affaire un peu montante. On va essayer d'utiliser une métaphore footballistique. Vous verrez bien.
Eh ben, écoutez, on voit ça ensemble. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Voici Chegg, When You Walk. ça s'appelle Chegg, When You Walk, sur France Inter.
Power Hit Radio.
Magic FM.
Ferra de la Tula.
Desservi pour info.
60 Minutes.
Sous les radars, l'information internationale qui vous a échappé, mais que Virginie Pironon a vu pour vous. Virginie, on commence en Allemagne ce soir avec de quoi nous dégoûter des bonbons.
Allez Fabienne, un petit nounours, non?
Bah, faut voir maintenant.
Vraiment
du coup.
Pas. Allez, Haribo, c'est beau la vie, oui, mais pas pour tout le monde. Un récent documentaire de la chaîne allemande ARD accuse la marque allemande d'esclavagisme. Alors, on connaissait déjà les conditions effroyables dans lesquelles sont élevés les porcs dont on tire la gélatine pour les bonbons. Là, l'émission Mark & Check s'intéresse aussi aux humains, à des ouvriers brésiliens dans des palmeraies.
Wenn Sie wüssten, dass die Süßigkeiten ihrer
des ouvriers qui travaillent dans des conditions effroyables, sans accès à l'eau potable ou aux toilettes.
Haribo Check
qui se penche sur la production de carnauba au Brésil.
Et c'est quoi la carnauba?
Alors carnauba, moi c'était la première fois que j'entendais ce mot.
Bon, hein. Ça me rassure, moi aussi.
C'est en fait une cire issue de feuilles de palmier. Et cette cire, eh bien, elle est indispensable car elle permet aux bonbons de ne pas coller entre eux. Sauf que le documentaire révèle que les ouvriers brésiliens qui la récoltent dorment par terre ou dans des camions, qu'ils n'ont pas de revenus fixes, c'est en fonction de la récolte. Ils sont payés en moyenne 10 euros par jour pour couper les feuilles des arbres avec des lames attachées à de longues perches. Ils travaillent sans aucune protection et n'ont accès ni à l'eau potable ni au sanitaire.
Et leur Haribo, j'imagine qu'on leur a posé la question, qu'est-ce qu'ils disent?
Alors contactée par l'agence Reuters, l'entreprise basée à Bonn se dit extrêmement préoccupée par les images révélées dans le documentaire. Elle dit enquêter depuis aux côtés de ses fournisseurs sur les conditions de travail de ses ouvriers au Brésil.
Allez, nous partons pour le Yémen. Virginie, le conflit souvent oublié mais qui alarme les Nations Unies.
Au Yémen, 11 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire. Médecins sans frontières parle d'ailleurs aujourd'hui d'une situation sanitaire désespérée. Dans le pays en guerre civile depuis 2014, la nourriture est utilisée comme une arme de guerre, situation encore aggravée un peu plus par le choléra. Le conflit oppose des rebelles, les Houthis, au gouvernement du président Abd Rabo Mansour Hadi. Le chef du bureau des affaires humanitaires de l'ONU, Mark Lowcock, vient de terminer une visite de 5 jours sur place et il se dit effaré.
C'est choquant de constater l'impact terrible d'une guerre engendrée par les hommes. Toutes les parties au Yémen et celles qui peuvent avoir une influence de l'extérieur doivent faire beaucoup plus pour respecter les lois humanitaires internationales et protéger les civils.
Le chef du bureau des affaires humanitaires de l'ONU ajoute qu'il faut une résolution politique à cette crise. Quand il parle des pays qui peuvent avoir une influence de l'extérieur, il s'agit notamment de l'Iran et de l'Arabie Saoudite qui mènent au Yémen une guerre en sous-main, Téhéran soutenant les rebelles Houthis et l'Arabie Saoudite, le président yéménite.
Et puis Virginie, le Pakistan renoue avec les compétitions internationales de cricket.
D'abord Fabienne, il faut bien avoir en tête la place occupée par le cricket au Pakistan. C'est le sport national des millions de fans et d'adeptes, 900 clubs environ recensés à Karachi, la capitale économique et financière, 400 à Lahore, deuxième ville du pays, et 200 à la capitale Islamabad. Mais depuis 8 ans, tristesse, le pays n'accueillait plus aucune compétition internationale. En cause, la sécurité. 3 mars 2009, à Lahore, deuxième ville du pays, un commando de talibans pakistanais attaque le bus de l'équipe nationale du Sri Lanka. L'attaque fait 9 morts, 9 personnes sont blessées. Depuis, les stades sont quasiment vides, mais hier soir...
Last ball of the over.
Pour la première fois depuis l'attentat, l'équipe sri-lankaise est revenue. Le Pakistan a particulièrement fêté les joueurs, avec des portraits d'eux dans les rues de Lahore, des banderoles de bienvenue. Des milliers de fans, encadrés par encore plus d'agents des forces de l'ordre, se sont pressés hier soir dans les gradins du stade Kadhafi. Les billets se sont vendus comme des petits pains.
Et alors au final, quand même, qui a gagné?
Le Pakistan par 36 runs, battant le Sri Lanka 3-0. En fait, c'est une série de 3 matchs. Mais évidemment, Fabienne, c'est bien plus que cela. En renouant avec les compétitions de haut niveau, le Pakistan tente de sortir de l'isolement international. Au mois d'avril, le pays doit accueillir un tournoi de 6 pays asiatiques. Ça s'appelle, Fabienne, la diplomatie par le cricket.
Absolument, on aura appris aussi que ça marche en run, donc le cricket. Voilà. Virginie Pironon, merci beaucoup, sous les radars, dans Un jour dans le monde.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes en Égypte ce soir. Eh oui, on dirait pas comme ça, mais en Égypte, après un concert rock, un concert d'un groupe libanais, c'est ce que vous entendez là, Et l'histoire a fait le tour des médias et croyez-moi, elle n'est pas drôle. Elle a beaucoup alimenté les conversations en Égypte. Elle secoue encore la société égyptienne. Le chanteur du groupe est ouvertement homosexuel et le soir du concert, quelques jeunes gens ont dansé dans la foule avec le drapeau arc-en-ciel. 65 personnes ont été placés en détention dans les semaines qui ont suivi le concert. 20 sont condamnés à des peines pouvant aller jusqu'à 6 ans de prison. Et voici exactement comment ça s'est passé. Le reportage est signé François Umfer-Katadji.
C'était un concert bon enfant, inédit et émouvant. Les fans s'étaient réunis en masse et arboraient t-shirts et tatouages ONE à l'effigie du groupe. L'un des meilleurs concerts de notre carrière, assure sur Twitter quelques heures après le show, le groupe libanais adulé par une partie de la jeunesse moyen-orientale. À plusieurs reprises, il laisse le public entonner ses chansons a cappella. Nariman, étudiante en art graphique, était présente dans la foule réunie ce jour-là.
C'était vachement bien. C'était l'un des concerts les plus chouettes auxquels j'étais dans ce contexte. Pour ce concert de Mashrou Leila, il y avait une atmosphère vraiment confortable. On a ressenti qu'il y avait une certaine forme de liberté d'expression. C'est pour cette raison que des gens ont sorti un drapeau arc-en-ciel et que chacun s'est senti libre de faire ce qu'il voulait.
Mais les photos d'une poignée de très jeunes hommes et femmes qui brandissent un drapeau arc-en-ciel deviennent virales sur les réseaux sociaux, accompagnées d'une logorée de haine contre les homosexuels. Les médias égyptiens s'emparent du phénomène. Sur la chaîne Extra Two, par exemple, un présentateur discute du sujet pendant près d'une heure.
Les droits des homosexuels, vous savez que ça fait partie des choses que les sociétés occidentales ont tenté d'imposer à l'Égypte lors de conférences internationales. Et l'Égypte a toujours refusé toute reconnaissance des droits des homosexuels. C'est contraire à nos valeurs.
Les autorités profitent du scandale, les premières peines de prison sont prononcées et l'église chrétienne copte annonce à son tour vouloir organiser une grande conférence contre, je cite, « le volcan de l'homosexualité et le danger imminent qu'il représente pour la jeunesse égyptienne ». Les ONG, elles, comptent avec inquiétude les arrestations dans les différents gouvernorats d'Égypte. C'est le cas de Dalia Abdelhamid qui travaille pour l'EIPR.
Il y a eu 8 cas où des verdicts ont été prononcés. Les verdicts vont de 1 à 6. La plupart des chefs d'accusation sont débauche ou publication de contenu qui incite à la débauche. Nous avons documenté une répression depuis octobre 2013 et ça ne s'est jamais arrêté. Et c'est juste une intensification de la vague d'arrestations.
France Inter s'est vu refuser l'accès aux audiences de ces procès. Sans pouvoir enregistrer, nous avons pu constater au centre de médecine juridique du Caire la présence de 10 accusés menottés face contre le mur en vue de subir un examen anal pour prouver leur homosexualité, comme le précise Dalia Abdelhamid.
Nous avons aussi documenté cette violation qui n'a aucune valeur scientifique, ce qu'on appelle les examens de l'anus. Ils font cela aux gens sans obtenir leur consentement. On ne leur demande pas s'ils veulent être examinés par les médecins légistes. Il y a 6 manières de prouver, selon eux, s'il y a eu sexe anal ou non. Cela, selon les règles de l'ONU, est classé comme une forme de cruauté, de traitement humiliant et de torture.
Nous rencontrons Mahmoud, jeune bisexuel. Il remercie le ciel de ne pas avoir trouvé de billet pour le concert de Mashrou Leila. J'aurais pu être un de ces gamins qui a brandi le drapeau, dit-il. Il raconte sa crainte d'être démasqué un jour par sa famille.
Je ne peux rien dire à ma famille. Si mon père savait, il mourrait probablement. Il est vieux, il souffre d'un cancer. Le choc serait beaucoup trop important pour lui. Parfois je me dis, merde, je dois arrêter avec tout ça. Parce qu'il faut dire aussi que je suis chanceux. Je continue à coucher avec des filles. Donc parfois je me dis, bon j'arrête, je suis hétéro et voilà. Et puis très vite je pense, je me moque de qui ? Je devrais arrêter à cause de ce qui se passe dans le pays ?
Pour lui, la haine des homosexuels en Égypte provient de fantasmes collectifs alimentés par les médias et les clergés.
Ce dont les gens ont peur, c'est à cause du lavage de cerveau ambiant. C'est de se dire que s'ils acceptent la tenue du concert de Mashrou Leila, alors la prochaine fois, ils viendront pour faire la fête et ce sera une énorme orgie.
Quelques jours après le concert, le Conseil suprême des médias a interdit toute prise de parole à la télévision qui donnerait une vision positive ou neutre de l'homosexualité. Timothy Keldas est analyste à l'Institut Tahrir.
À présent, la seule chance pour un homosexuel de parler à la télévision, c'est pour se repentir ou s'excuser. Évidemment, c'est scandaleux. Mais c'est la façon dont le gouvernement rejette systématiquement le débat. Au lieu de créer des espaces de discussion à propos de cette question et de ce qui se passe, de permettre d'entendre les positions des uns et des autres et permettre aux gens de se faire un avis, eh bien, il conforte cette sorte d'état paternaliste où il faut dire aux gens ce qu'ils ont le droit d'entendre ou pas, comme si les Égyptiens étaient incapables d'entendre d'autres opinions et de se faire un avis.
Malgré cette vague de répression et cette tempête médiatique, les hommes et les femmes ouvertement gays sont pourtant de plus en plus nombreux en Égypte et un fossé générationnel commence à se faire sentir.
Ça reste compliqué, mais je pense que dans notre génération, enfin, les jeunes à l'université en ce moment, on s'ouvre un petit peu plus. Mais c'est quand même la majorité s'oppose énormément à ça.
Il y a un changement, ce n'est pas une révolution. On ne parle pas d'un grand nombre de gens, mais c'est notable. Je crois que le simple fait que 35 000 personnes assistent au concert d'un chanteur ouvertement gay et parlent des droits LGBT, c'est aussi la preuve que les choses sont en train de changer sur cette question.
Les deux jeunes qui ont été arrêtés pour avoir brandi le drapeau arc-en-ciel ont vu leur détention provisoire prolongée de 15 jours. Ils ont 21 et 22 ans et sont en prison depuis bientôt un mois.
Qu'est-ce qu'on écoute là? Justement, c'est l'un des titres du groupe dont on parle, un groupe qui désormais, vous l'imaginez, n'a plus le droit de se produire en Égypte. Le reportage est signé François Mferkataji. Et sur France Inter, dans Un jour dans le monde, Kelly Lee Evans, Hands Up.
Who do you want me to be? Oh, yeah.
Kelly Lee Evans. Hands up, haut les mains, j'ai envie de dire.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Synthès.
This is an historic moment.
Aujourd'hui.
L'actualité en série. Le lundi, c'est le Brexit saison 2 et Antoine Gignot, bonsoir Antoine.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Antoine, la semaine dernière, on est resté sur des résultats plus que médiocres, c'est le moins qu'on puisse dire, du dernier round de négociations, épisode 8 du feuilleton Brexit. Ce soir, on rigole pas avec les opinions des profs à la fac, l'intrigue, le complot même de la semaine se passe à l'université.
Sur les bancs de la fac, oui. C'est là que se joue le drame qui agite les Britanniques ces derniers jours. Allez, intro, développement, conclusion, sortez vos cahiers. Vous êtes prêts?
Je vous explique.
Ça commence avec une lettre, un courrier qui arrive le 10 octobre sur le bureau du vice-président de l'université de Worcester au nord-ouest de Londres. Papier beige, épais, en tête, avec en lettres vertes le sigle du Parlement, House of Commons, et un texte très court. Vous seriez fort gentil de me communiquer les noms des professeurs qui, au sein de votre établissement, sont chargés de donner des cours d'histoire européenne et particulièrement de ceux qui font référence au Brexit.
Oula, ça sent pas bon. Alors c'est quand même assez surprenant cette demande, non ?
Et c'est d'autant plus surprenant que la lettre est signée Chris Heaton-Harris.
Ah, est-ce qu'on vous a...
Et qui est connu pour ses discours anti-européens, Chris Heaton-Harris. Il a fait campagne pour sortir de l'Union, mais le plus intriguant dans cette lettre, c'est qu'elle est entièrement tapée à l'ordinateur. Seul le nom du destinataire a été écrit à la main, à l'encre bleue, et du coup, le vice-président de l'université se dit rapidement qu'il ne doit pas être le seul à l'avoir reçu. Il passe des coups de fil et il découvre au bout de quelques jours que le courrier a été envoyé à tous les chefs d'établissement britanniques.
Et donc, Antoine, les profs commencent à dénoncer la chasse aux sorcières.
Eh oui, bon, c'est vrai qu'avec Halloween cette semaine, on est dans la thématique et pourtant ça ne les fait pas rire du tout, les profs d'université, que les pro-Brexit cherchent à faire la liste des enseignants qui parlent de la sortie de l'Union européenne. Absolutely disgraceful, outrageant, c'est ce que dit Chris Patton qui dirige Oxford. L'un des responsables de la London School of Economics compare même cette tentative de recensement avec le McCarthyisme, la traque des communistes dans les années 50 aux États-Unis. Tom Brake chez les libéraux démocrates parle d'inquisition, de léninisme idiot. C'est, dit-il, une tentative de stopper les débats, de faire taire tout le monde, de ne plus parler du Brexit. En fait, l'affaire a pris tellement d'ampleur ces derniers jours que le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur a même été obligé d'aller en direct à la BBC expliquer que non, il n'y avait pas de tentative sournoise de cataloguer les enseignants, aucune tentative d'entraver la liberté des universitaires. Et le député qui avait écrit la lettre, lui, s'est vaguement excusé en expliquant qu'en fait, il voulait écrire un livre sur le Brexit et qu'il avait besoin de rencontrer des spécialistes. Fin du premier épisode.
Alors, du premier épisode, parce qu'il y en a d'autres, ça continue ?
Absolument. C'est même de pire en pire, parce qu'à cause de tout ce remue-ménage, les députés pro-Brexit et les tabloïdes, comme le Daily Mail, ont saisi l'occasion pour rappeler que, quand même, les profs n'étaient peut-être pas assez impartiaux. Le mouvement anti-universitaire prend de plus en plus d'ampleur avec, par exemple, ce tweet de Paul Scully, un élu de droite qui photographie un tract, une pub pour une marche de protestation contre le Brexit et qui la poste sur les réseaux sociaux avec ce commentaire « Voilà ce qu'un professeur a donné à ma fille qui dépense 9000 livres par an pour devenir ingénieur et pas pour apprendre la politique. » Il y a aussi ce témoignage d'un étudiant qui militait pour le Brexit et qui accuse un prof de l'avoir traité de nazi. Pour résumer, le Daily Mail publie toute une série d'exemples. Les étudiants de Durham qui ont reçu des mails d'un conférencier qui les invitait à s'impliquer dans la lutte contre la sortie de l'Union européenne, ou le discours de la remise de diplôme de Cambridge en juin où l'un des professeurs est accusé d'avoir gâché la fête en disant ouvertement que le Brexit allait causer une période d'incertitude. Ouh là là, toute l'ambiance est tombée d'un coup.
Alors, mais quand même, Antoine, les enseignants, au final, est-ce qu'on le sait ou pas, est-ce qu'ils sont vraiment opposés au Brexit ?
Alors, c'est ce que montrent les sondages. En fait, 8 profs sur 10 ont voté pour rester dans l'Union européenne et ils restent, c'est vrai, très mobilisés. Rappelez-vous, on avait parlé de leur manifestation au mois de septembre. Eh bien, 4 universitaires sur 10 envisagent désormais d'aller s'installer l'an prochain à l'étranger. Alors, une conclusion pour finir cette étude universitaire. Merci. Je vous laisse avec la réponse qu'a fait le vice-président de l'université de Worcester lorsqu'on lui a demandé de faire la liste des profs de son établissement. Il a cité Churchill. Nous survivrons au pouvoir de la tyrannie, nous ne nous rendrons jamais.
Eh ben c'est voilà beau, qui est... Oui, puis c'est extrêmement sérieux, surtout. Merci beaucoup, Brexit saison 2. Antoine Gignot, c'est tous les lundis dans le Jour dans le Monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Anthony Bélanger, bien le bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Alors Anthony, on va partir une fois de plus pour la Catalogne. Une fois n'est pas coutume, mais on fait bien d'y retourner parce que c'est toujours bien de se remettre les choses un petit peu au point. Ça devient tellement compliqué. Les informations se bousculent encore depuis ce matin.
Oui, alors, encore une fois, n'oubliez jamais, chers auditeurs, que l'Espagne est une des grandes patries du théâtre et donc des coups de théâtre. Alors, on avait laissé les catalanistes, vous savez, déclarer leur indépendance, leur République de Catalogne, ça c'était vendredi, puis les unionistes défilaient dimanche dans les rues de Barcelone. Jusque-là, tout le monde est dans son rôle, hein. Entre les deux, Madrid publiait en urgence des décrets royaux, dépossédant Carles Puigdemont de sa présidence et destituant son gouvernement. Un match Real Madrid-Gérone venait couronner le week-end. Le sous-texte, vous le connaissez.
Gagné par Gérone.
Voilà, gagné par Gérone. Le sous-texte, et en France, tout finit par une chanson, en Espagne, par un match de foot. C'est entendu, Madrid à la main en Catalogne. Il ne restait plus qu'à attendre de savoir qui allait tomber dans le piège des élections du 21 décembre prochain.
Mais alors, du coup, ma question, en quoi ces élections du 21 décembre prochain sont-elles un piège ?
Eh bien, en dissolvant le Parlement catalan et en convoquant des élections, Madrid remet la Catalogne sur le chemin de la légalité constitutionnelle espagnole. Autrement dit, Madrid un but, Catalogne zéro. Bon, mais si en plus les indépendantistes acceptent d'y participer à ces élections, c'est en creux reconnaître que leur propre élection, celle du 1er octobre, n'est pas tout à fait, comment dire, régulière. C'est rentrer dans le terrain de foot et jouer la partie. Or, pour n'importe quel parti politique, des élections à venir, c'est absolument irrésistible. Et d'ailleurs, il n'a pas fallu attendre 24 heures pour voir les deux principaux partis indépendantistes confirmer qu'ils se présenteraient bien à ces élections régionales. Ce qui signifie implicitement qu'ils considèrent licite la dissolution du Parlement catalan et la convocation par Madrid de ces fameuses élections régionales. Et là, coup sur coup, Madrid 2 et 3-0, ah, le rêve, la fête dans le bassin de Cibeles, le roi Philippe au balcon et la reine Laetitia en plus.
Alors, et 1 et 2 et 3-0, mais je sens que l'affaire s'arrête pas là.
Je vous l'ai dit, hein, théâtre et coup de théâtre. Dans la matinée, Madrid porte l'estocade. Ah. L'inculpation.
On a quitté la métaphore footballistique alors.
On va y revenir, vous allez voir.
Non, je vous en prie.
L'inculpation. L'inculpation pour rébellion, sédition, malversation, non seulement de Carles Puigdemont, mais aussi contre la présidente du Parlement catalan, elle s'appelle Carme Forcadell. Et ce n'est pas tout. Les plaintes déposées par le parquet espagnol concernent aussi tous les membres du gouvernement catalan, ainsi que les cadres du Parlement, une bonne trentaine de responsables en tout. On allait voir ce qu'on allait voir. Sauf que pendant ce temps, on apprenait que Carles Puigdemont, ainsi que plusieurs membres du gouvernement catalan, se trouvaient à Bruxelles après un périple incroyable de Barcelone à Marseille, puis ensuite de Marseille à Bruxelles. Alors peut-être être à Bruxelles, vous savez, par la déclaration du ministre de l'Immigration et des Réfugiés, c'était hier, il s'appelle Théo Franken. Hier, il a en effet déclaré ce ministre flamand, lui-même travaillé par la question séparatiste, et qui bien, il expliquait qu'il étudierait avec sérieux une demande d'asile politique présentée donc par le fameux Carles Puigdemont, aussitôt dit, aussitôt fait, et hop, voilà le président catalan à Bruxelles.
Alors donc, si Madrid veut récupérer Carles Puigdemont, il va falloir émettre quoi, un mandat d'arrêt international ?
Vous imaginez la scène. Oui. Des policiers belges reconduisant un homme politique, somme toute élu, qui n'a jamais eu de sang sur les mains, à l'aéroport pour être remis menotté aux autorités espagnoles, puis traîné devant un tribunal à Madrid, au FC Barcelone, on appelle ça una remontada. Et le PSG en sait quelque chose, c'est fulgurant. D'autant qu'en plus, le piège
en
électoral...
Si je peux me permettre, hein, le FC Barcelone, personne ne dit ça, mais
bon,
c'est tout.
Pas grave.
Ça s'appelle le Barça, mais
le
allez-y,
Barça,
vous
allez,
en prie.
Le Barça. D'autant plus, moi je suis pas forcément très très bon en foot, mais au moins là, là-dessus, j'arrive à tenir la métaphore. D'autant qu'en plus, le piège électoral est lui aussi en train de se refermer sur Madrid. Des images de Puigdemont menacé en pleine campagne électorale, imaginez, difficile dans ces conditions de professer la réconciliation nationale. Or, l'enjeu, c'est justement le Parlement catalan à venir. Si Rajoy joue trop mal ou trop ferme, il risque de se retrouver avec le même Parlement indépendantiste à l'arrivée et il faudra refaire le match.
Allez, refaire le match, c'est pas que chez nous que ça se passe, mais on voit bien de quoi vous voulez parler. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. À très vite. La suite du 18-20, c'est le journal de Sébastien Paour. Et puis le téléphone sonne, on va parler trop de la sécu ce soir.